Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Jésus a-t-il eu une vraie enfance ?
La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Elle le regarde et elle pense : ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi. Il a mes yeux. Et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu et il me ressemble.
La Vierge elle-même restait pensive devant l'enfant. Il lui avait été annoncé qu'il était Dieu incarné. C'était néanmoins un bébé. Serait-il comme les autres ? Plus tard, les peintres de l'Occident chrétien, à qui beaucoup de liberté pourtant était consentie pour traiter le sujet, n'osèrent par exemple jamais représenter Jésus à quatre pattes. Et pouvait-il le figurer apprenant à lire ? Peut-être, mais lisant. Il était le Verbe lui-même. Les questions sont innombrables et les évangiles dits canoniques, ceux qui ont pris place officiellement dans le Nouveau Testament, apportent peu de réponses. La tentation est alors de combler les manques. Les apocryphes s'y sont employés à satiété. Évangile arabe de l'enfance, évangile de l'enfance selon Thomas, pseudo-Matthieu, etc. Et les époques successives ont fait le reste. La nôtre, par exemple, n'aime guère les familles nombreuses, mais se plaît évidemment à imaginer Jésus entouré d'une ribambelle de frères et sœurs. Expulser Jésus d'une enfance ordinaire. Pensez qu'à 3 ans, il s'endormait déjà sur une croix posée au sol, comme Sarah Bernard dans son cercueil. C'est la pente la plus facile. Un autre versant a pourtant été éclairé dans la suite des temps. Et si Jésus s'étant fait homme, avait voulu vivre son enfance comme tout petit d'homme.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
François Besflug, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
On peut évoquer votre enfance avant qu'on ne parle de votre dernier livre, Au cerf, Jésus a-t-il eu une vraie enfance ? Petit, vous lisiez, ça remonte à très loin, hein, la plus haute antiquité, la miche de pain.
Oui, en effet.
Qu'est-ce que c'était ?
Ah, c'était une sorte de recueil pour enfants, assez épais, et présentant des dessins lisibles par des enfants, sans complications, avec beaucoup plus d'ailleurs de créations d'artistes récents, à l'époque, que d'œuvres d'art reproduites, vous voyez. Et c'était à chaque fois très catéchétique, très didactique.
Il y était dit, le petit Jésus ne faisait rien d'extraordinaire et les gens de Nazareth ne se doutaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Il vivait comme tous les petits enfants de la ville, mais ce qu'il faisait, il le faisait très bien.
C'était à l'époque, à mon avis, assez audacieux, parce que cela voulait, au fond, signifier que faire de l'enfant Jésus trop tôt un petit adulte en réduction, c'est le priver d'une vraie enfance. Ça m'a donné, vous voyez, le goût de réfléchir à ce sujet.
Oui, alors donc, votre goût de l'iconographie, vous constituez un dossier extraordinaire de centaines d'images, et peut-être né au contact de la miche de pain, et s'est enrichi à la vue de l'enfant Jésus se pique à une couronne d'épines, la Vierge donne la bouillie à Jésus pendant qu'un angelot souffle sur le réchaud, etc., etc. Des centaines d'images.
Oui, alors ces centaines d'images sont d'un intérêt, si vous voulez, un peu postérieur à l'époque où je consultais la miche de pain.
Elles oui, sont vous avez fait quelques études.
Oui, j'avais quelques études. Et au cours de ces études, justement, on m'a beaucoup entretenu d'un débat entre historiens, théologiens, exégètes. Jésus a-t-il su qu'il était Dieu et quand ? Voilà. Alors, entre-temps, je me suis pas mal passionné pour l'histoire de la mystique. Je me souviens d'avoir lu Marie d'Agreda qui dit « Jésus, au moment du passage du col de l'utérus, a eu une vision du troisième niveau mystique. » Vous voyez, bon, des choses absolument hallucinantes qui, elle, alors, optait pour dire « Jésus a su tout, tout de suite. »
Si vous voulez bien, on va faire un peu de chronologie, peut-être pas trop de mystique, et distinguer une première période. Le oui. Petit Jésus, vous savez, le bébé jusqu'à 2 ans. Et nous avons... D'autres exemples iconographiques à vous soumettre, celui-ci par exemple.
Jésus devant l'histoire, une émission du père François Refoulé. Aujourd'hui, les évangiles de l'enfance. Texte lu par Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie Française. Réalisation Georges Gravier.
On sera sans doute surpris en apprenant le nom de l'auteur de cette belle méditation sur la Vierge et l'Enfant. Elle est extraite de Bariona, ce mystère de Noël qu'en 1941, à la demande de ses camarades de captivité, écrivit Jean-Paul Sartre.
La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement qui n'apparut qu'une fois sur une figure humaine. Car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure interdite et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une horreur religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant terrifiant, car il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Elle le regarde et elle pense « Ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair, il est fait de moi. » Il a mes yeux, et cette forme de sa bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu, et il me ressemble.
Ce texte de Sartre, surtout lu par Michel Etcheverry, c'est aussi beau et aussi complexe que certaines vierges à l'enfant que vous décrivez, parce que c'est un archi-sujet, ça, la Vierge à l'enfant.
Ah, c'est un des sujets, je crois, les plus fréquentés pendant 17 siècles dans l'art d'Occident comme dans l'art d'Orient. C'est incontestable.
Mais dans l'art d'Orient, c'est simple quand même, parce que Jésus est Dieu. Et Dieu d'abord. Et l'humanité de Jésus n'apparaît pas aussi nettement que dans l'art d'Occident.
Ça dépend à quelle période, parce que je crois que pendant tout le premier millénaire, au fond, l'art d'Occident et l'art d'Orient, sur ce point, si vous voulez, se donnent la main et font la même chose. C'est-à-dire qu'ils présentent des petits Jésus, quand même, d'une gravité qui fait des gestes, qui est bien vertical, comme pour une photo de classe, enfin... Il est d'une sagesse qui n'est pas de son âge. Moi, j'ai 7 frères et sœurs, j'ai un certain nombre de neveux et nièces. Je n'ai jamais vu un petit enfant se comporter comme le petit enfant de la peinture d'Orient comme d'Occident, qui est vertical, hiératique, comme on dit en peinture, qui bénit le geste classique de l'orateur et qui est déjà d'une gravité d'enseignant professionnel, plutôt vers la retraite, vous voyez.
Et qui ouvre les bras alors qu'il est emmailloté.
Alors oui, ça c'est une sorte d'oxymore pictural assez amusant et qui montre aussi un enfant qui entend bien manifester dès son plus jeune âge une sorte de souveraineté universelle. C'est lui qui va nous enseigner.
Alors il apparaît très vite debout puisqu'on ne le voit jamais à quatre pattes, il marche, il apprend à lire parce que dans les évangiles Jésus écrit, il a bien fallu qu'il apprenne enfant à lire. Alors comment ça s'est passé, ça?
Il apprend à lire très rarement. Il y a une sorte de contraste pour quelqu'un comme moi qui n'arrête pas de sillonner, si vous voulez, les archives de l'art religieux. Des tableaux pour Jésus apprenant à lire, j'ai fini par en dénicher, mais je vous assure qu'il a fallu que je sois endurant.
Je reviens aux occurrences les plus fréquentes. Donc c'est Sainte-Anne. Sainte-Anne, elle a appris à lire à la Vierge. Quand on la retrouve avec la Vierge et l'enfant, on peut dire qu'on est dans une scène indirecte d'apprentissage de la lecture. Voici un épisode d'un feuilleton de télévision sur France 3, il y a 25 ans, signé par le regretté Didier Georges Gabilly. Nous sommes dans l'atelier de Léonard de Vinci, qui achève justement la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte-Anne.
Qu'est-ce que c'est?
Nous avons pensé, puisque votre tableau est presque terminé.
Comment ça terminé? Tu sais bien que Maître Vinci pense que rien n'est jamais vraiment terminé.
Nous avons pensé donc vous offrir cet agneau que vous avez su si bien représenter pour tout ce que vous nous avez appris en peignant ce panneau.
Allons, jeunes gens, allons! Il est vrai que pour une fois, j'en suis assez fier.
Sainte-Anne porte sa fille,
la Vierge qui saisit l'enfant Jésus,
pour l'éloigner de l'agneau, ou autrement dit, la victime que deviendra le Christ.
Mais tout cela ne serait rien sans la lumière sur leur divin visage.
Mais pourquoi cet arbre sur la droite, maître? Il est dessiné admirablement, mais si sombre, si étrange.
Oh, Andrea, si tu veux continuer à être un bon peintre, fais marcher ta tête. Bien sûr, il fait la liaison entre mon premier plan et mes montagnes, mais il raconte aussi le malheur qui s'abattra un jour sur la Sainte Famille. Et tant mieux si Sainte-Anne sourit de ce sourire que j'affectionne. C'est l'énigme de l'amour des femmes, non ?
À Ah oui, pourquoi mettre cette ombre de cet arbre? Parce que c'est déjà la croix, cet arbre.
Oui, c'est ça.
Il y a une prémonition.
Voilà, exactement. Ça m'amuse que vous ayez pensé à ça, c'est une très bonne idée, parce que ce tableau vient d'être restauré au Louvre, a donné l'occasion à cette occasion d'une exposition, et on est venu me demander de faire un livre sur, justement, sur ce tableau, et à partir de ce tableau, sur Sainte Anne, l'éducation de la Vierge et tutti quanti. Bon. Et c'est vrai que c'est un tableau qui est à la fois très tendre, très familial, très intime, et en même temps très construit du point de vue théologique, puisque il y a trois générations, Sainte Anne, la grand-mère, la Vierge, la maman, l'enfant, et au bout du bout, dans une espèce de mouvement d'inclinaison, l'agneau, qui est le symbole de son sacrifice. C'est du construit, surconstruit.
L'enfance est traversée de signes. Alors, certains sont quand même assez étonnants quand on regarde les reproductions de votre cahier central. Dans Jésus a-t-il eu une vraie enfance, François Besluc, au Cerf. Jésus s'endort sur la croix de temps en temps.
Jésus bébé, oui, c'est ça, est montré par pas mal de peintres au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe, endormi sur une croix qui a été taillée, disons, à son échelle, comme s'il fallait qu'il s'entraîne et se prépare à ce qu'il attendait. Alors, on le voit d'ailleurs assez paisiblement endormi, il n'y a pas de cauchemar, si vous voulez, mais il s'entraîne. Et je trouve ça étonnant qu'on l'ait fait remonter, si vous voulez, la préparation de la passion à sa tendre enfance.
Par exemple, quand il se pique à une couronne d'épines, tableau de Murillo, ou bien d'autres tableaux du même tabac que vous décrivez. La Vierge, en principe, elle devrait soigner l'enfant qui vient de se blesser, ben non.
Ou le consoler, elle s'agenouille, voilà. Bon, ça c'est assez étonnant. Et puis comme sont étonnants tous ces tableaux où Jésus caresse un clou ou se pique à une couronne d'épines, on a envie de demander, mais d'où sort cette couronne d'épines et que fait-elle dans l'atelier de Joseph ou dans la maison de Marie, vous voyez. C'est des scènes qui font remonter la passion jusqu'à la prime enfance.
Vous avez beaucoup de frères et sœurs, vous?
J'en ai 7.
Et dans les représentations picturales de Jésus, on est maintenant à la période où les petits garçons, puis les grands garçons, on voit pas les frères et sœurs que nous imaginons aussi nombreux que dans la famille Besluc.
Alors, les peintres se sont gardés de prendre des options, si vous voulez, sur ce sujet. Ce qu'on voit très souvent, c'est le petit Jésus avec son cousin Jean-Baptiste. Ils ont 6 mois d'écart, bon, dans cette scène, hein, parce qu'ensuite, au baptême, sera autre chose. Mais dans cette scène, ils sont très souvent ensemble, et on dirait presque 2 petits frères, en réalité.
Prémonition de ce qui va arriver beaucoup plus tard avec le baptême du Christ. Mais les évangiles apocryphes, il faut qu'on leur dise un mot, François Besluc. Pourtant, représente le jeune Jésus jouant, sidant avec ses frères et sœurs, du moins avec ses camarades. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que ces évangiles apocryphes pour lesquels on a une passion aujourd'hui, nous autres contemporains?
Oui, et ce sont des textes où l'imagination s'est livrée, a eu libre cours, et eux ont inventé toutes sortes de scènes concernant Jésus allant puiser de l'eau parce qu'il manque d'eau à la cuisine de Marie, Jésus allant à l'école, Jésus...
Attendez, quand il puise de l'eau... Imaginons qu'il casse la cruche, c'est pas grave, il met l'eau dans le.
Êtes très informé, oui, c'est ça. Or, miraculeusement, l'eau arrive, j'allais dire, sans déperdition, à la cuisine de Marie. Ce qui, il faut le faire, évidemment.
Mais quand il joue avec ses camarades, je reviens aux scènes de bal, par exemple. Il est plus fort qu'eux, c'est l'As des As, c'est Col des Champions.
Pas forcément, c'est lui qui souvent règle le jeu, décide s'il est temps d'en finir, et quand il est bousculé, réserve un sort mais fâcheux à celui qui l'a bousculé, quitte à même à le faire mourir tout de suite, et puis à le ressusciter un peu plus tard parce que les parents sont pas contents.
On fait pas de château de sable, on fait des murailles dans la boue du Jourdain.
Voilà, c'est ça.
Et imaginez qu'un petit camarade, d'un coup de pied, bouscule tout l'édifice construit par Jésus, alors.
Alors voilà, c'est ce qui arrive, et l'enfant est maudit par Jésus, qui est vraiment presque un serial killer dans l'histoire. Il est positivement dangereux, et pour ses petits camarades, et aussi pour ses professeurs à l'école, à qui il est conseillé de ne pas reprendre le petit Jésus, qui sait mieux que toute chose, et qu'il est puni s'ils le reprennent.
Alors, les évangiles apocryphes ne donnent pas lieu à beaucoup d'images dans l'histoire de l'iconographie, dans votre dossier, François Besluc. On n'a pas non plus de représentation de Jésus chantant ou de Jésus dansant. Ça, c'est curieux.
On a des représentations de Jésus jouant du théorbe ou du luth, vous voyez, accompagné par des anges qui lui font la seconde voix et la troisième voix dans une sorte de petit orchestre domestique, bon, et qui lui enseigne aussi le maniement des cordes, bon. Mais de fait, des Jésus chantant, mais vous savez que la représentation des enfants chantant est tardive, bon. On songe immédiatement à Donatello, etc. Jusqu'à très longtemps, jusqu'au seuil de la Renaissance, on n'a pas montré volontiers des gens de l'histoire sainte avec la bouche ouverte.
Alors ça nous a fait penser à une facétie musicale, Jacques Sigal, notre réalisateur, et moi. L'enfant prodige en musique, vous connaissez Roberto Benzi.
Oui.
Oui. Oui. Parce que je me disais, vous étiez un peu jeune pour connaître Roberto Benzi.
Oui, bah, on en a entendu parler, même si on n'était pas tout à fait d'âge.
Hein. Oui, et il était très jeune quand il a commencé à conduire un orchestre.
Comment ? Quel nom viens-tu de prononcer ? Roberto Benzi ? Vieillard, ma chère, 12 ans bien sonnés. 12 ans. Il n'y a pas si longtemps, les journaux les plus graves relataient des entretiens édifiants avec le père d'un enfant prodige. L'enfant ne savait pas la musique. Quoiqu'ignorant tout du solfège et ne sachant pas même lire ses notes, l'enfant est assez doué pour diriger un grand orchestre symphonique.
Mais quand on a de belles références, quand d'augustes pavillons couvrent la marchandise...
Ben, le public l'achète.
Il y avait aussi le pape. Sa sainteté avait, paraît-il, déclaré « Sur ce front, il y a le signe de Dieu ».
Plus tard, marqué peut-être du signe de Jacques Chaban-Delmas, duc d'Aquitaine, il dirigera l'orchestre de Bordeaux. Ici, il est à la tête de l'orchestre symphonique de Londres, symphonie en ut majeur de Bizet.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec François Besflugue, Jésus a-t-il eu une vraie enfance ?
Lorsque Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et le troisième jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux.
Pourquoi est-ce que cette nuit est autrement que les autres ?
Parce que cette nuit, l'Éternel, notre Dieu, nous délivre de la servitude en Égypte.
Pourquoi mangeons-nous du pain non levé et des herbes amères ?
Les herbes nous rappellent l'amertume de notre captivité. Et ceci est le pain de la hâte.
Qui est cet enfant qui pose tant de questions ?
Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur.
Tous étaient frappés par son intelligence.
Mon enfant, nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi.
Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?
Liés ensemble, les questions qu'aujourd'hui encore, les enfants juifs posent à la Pâque, et puis vous avez reconnu, François Besflugue, les quelques versets de Luc, l'un des évangiles canoniques, consacrés à ce moment décisif. Maintenant, on passe à une nouvelle période, la puberté. Jésus va devenir adolescent, il a 12 ans.
Et jusqu'à son baptême, survenu quand il a 30 ans, ou environ 30 ans, nous précise l'évangile, on ne sait plus rien. Ça fait quand même 18 ans, c'est-à-dire plus de la moitié de la durée de l'existence de Jésus de Nazareth. Alors évidemment, les peintres s'en sont donnés à cœur joie. Il y avait peu de directives d'église, pas de consignes, pas même d'interdiction. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Donc, ils ont imaginé...
La liberté est grande pour les peintres
énorme
d'Occident.
Énorme en Occident. Énorme. Parce qu'en en Orient, malgré tout, ils sont tenus de se concevoir comme des ministres de l'Église, de jeûner, de s'en tenir à des schémas iconographiques déjà fixés, de prier avant, pendant, après, si j'ose dire, de faire bénir leur icône, etc. Il y a tout un processus, si vous voulez, d'encadrement pieux et liturgique de l'icône.
Comment est représenté alors le Jésus, au milieu des docteurs? Au centre
et généralement sur un trône qui est élevé, c'est-à-dire sur un piédestal. Et contrairement à l'extrait sonore qu'on a vu, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est lui
maintenant
qui fait...
Maintenant, vous voyez les extraits sonores. Voilà. Ben, c'est formidable, on peut faire une émission sur les images et la peinture. Ben,
d'une certaine manière, c'est parlant, parce que là, on a un enfant qui, dans votre extrait sonore, au fond, est à égalité, et les maîtres répondent en tant que maître. Dans la plupart des peintures de cet épisode, on a l'impression que c'est Jésus lui-même qui répond aux doutes et aux incertitudes des maîtres. Bon, donc il est un super maître, et les peintres, je répète, l'ont installé sur un trône qui est sur un piédestal.
Jésus descendit avec eux de Jérusalem pour revenir à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Le voilà maintenant dans la Sainte Famille. La Sainte Famille.
C'est une sorte de happy end. Il n'y aura pas de crise. Cette famille est parfaite. Elle sera d'ailleurs proposée en modèle à toutes les familles. Et de la même façon que le petit Jésus, raccompagné par ses parents, donnant sagement la main à chacun d'eux sur le chemin qui est conduit de Jérusalem à Nazareth, ben, sera considéré comme le modèle à suivre par tous les petits garçons.
Oui. Dans une vie obscure, modeste, on est en linge, on passe à table et on mange pas énormément.
On parle de la vie cachée de Jésus à Nazareth. De fait, il ne fait plus du tout parler de lui. Il n'y a plus de fugue à Jérusalem. Et on représente le plus souvent Jésus dans l'atelier de son papa charpentier, balayant les copeaux, l'aidant à scier ou à planter un clou. Vous voyez, bon. De temps en temps, effectivement, une scène sort un peu du lot, Jésus étant dans le linge ou achevant d'essorer le linge que Marie a lavé, tandis que Joseph l'étend sur une ligne. Bon.
Mais on peut peut-être quand même faire un pas de côté. Il a moins de 12 ans dans cette représentation de Georges de la Tour, mais il y a le petit Jésus enfant qui éclaire le travail de son père à la lueur d'une bougie. C'est un superbe tableau auquel vous faites
une grande
place. Et
c'est très touchant parce qu'il a une sorte de candeur, de naïveté. Il est au service de son papa. Là aussi, ça paraît tout à fait plausible et humain, cette scène. Je suis touché par elle, je l'avoue.
Et qu'est-ce qui fait Joseph? Il vrille un trou.
Joseph vrille un trou, il est complètement penché. Et comme l'atelier est très obscur, Jésus éclaire Joseph en train de faire cela. Et la main de Jésus, d'ailleurs, est comme éclairée en transparence par la flamme de la bougie.
Oui, mais cette main qui sera vrillée tard sur la croix.
Bien entendu, qu'une sorte de lien qui peut être établi, un lien de préfiguration avec ce qui va arriver sur la croix.
Vous nous permettez toutes les audaces. Vous avez dit qu'en matière de représentation de Jésus enfant, la plus grande liberté a longtemps régné.
Certains spécialistes supposent que Jésus a dû se rendre à Séphoris pour travailler sur des chantiers ou vendre des meubles. En tant que charpentier, il était plus facile de trouver un emploi à Séphoris qu'à Nazareth.
Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains.
Un groupe d'archéologues et quelques habitants de la ville étudient les ruines des villages galiléens qui datent du 1er siècle de notre ère. Chaque détail est observé. Les murs en plâtre, la taille des fenêtres.
Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, à mes mains seraient sèches et dures, elles tiennent si fragiles.
Le rapprochement de Johnny avec un documentaire sur les traces de l'enfant Jésus, Jean-Claude Bragnard, ne vous choque aucunement, François?
Non,
Bessuy.
Pas spécialement. Non, de toute façon, il y a beaucoup de jeux aussi dans l'histoire de la peinture. Et vos rapprochements ludiques, au fond, escortent ce que la peinture fait.
Mais parlons sérieusement de Saint-Joseph artisan. Il y a des églises qui portent ce nom, Saint-Joseph artisan.
Oui, ce qui a beaucoup compté, je pense, dans l'évolution du thème de Jésus dans l'atelier, c'est le fait que Joseph ait été proclamé patron de l'Église universelle. Donc ça lui a donné...
Ça, c'est tardif.
Ben, c'est tardif.
20e siècle.
Non, 19e.
19e.
Et du coup, ça explique une multiplication de vitraux, en particulier dans les églises, où on voit un Jésus de nouveau très sage, si vous voulez, bon, mais adolescent ou plus grand encore, et qui est papa. On le voit donc très souvent dans cette position, tandis que maman, dans un coin, est en train de filer la laine. Ou de...
Mais enfin, Dieu faisant un métier manuel, c'est quand même riche de possibilités pour l'enseignement social de l'Église.
Oui, et c'est à cela que ça a servi, à mon avis, que Jésus a appris un métier manuel, ce qui, d'ailleurs, dans le judaïsme, a aussi des lettres de noblesse très anciennes. Et un père doit, il a comme premier devoir d'État, d'une certaine manière, de transmettre son savoir-faire, manuel en l'occurrence, avec Joseph, à son fils. Donc il y a aussi une sorte d'éloge de la transmission tranquille entre un papa et son enfant.
À propos de tranquillité perpétuelle dans cette vie cachée, modeste, l'éveil de Jésus à la sexualité, parce que si on veut être cohérent, s'il s'est fait petit homme...
Mais aux yeux des théologiens, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, le Verbe de Dieu, en se faisant chair, a choisi le sexe masculin. Bon, ce qui probablement, d'ailleurs, compte tenu de l'histoire des religions de l'époque, était la seule possibilité envisageable. Bon. Mais, en plus de ça, il n'y a aucun doute sur l'existence du membre viril de Jésus, pour parler très concrètement, puisqu'il y a la scène de la circoncision, où très souvent, d'ailleurs, on voit très très nettement le petit pénis de l'enfant Jésus. Bon. Alors, qu'en a-t-il fait lorsqu'il est parvenu à l'âge de la puberté? Silence radio sur toute la ligne. On ne sait absolument rien de cela. Je ne connais absolument aucune
image. Parce que vous parlez de silence radio,
oui,
c'est que vous parlez du silence des images.
Pardon. C'est une sorte de... Oui. Alors, silence des images, effectivement, on n'a rien, si vous voulez. On n'a jamais même de représentation de Jésus, sauf une de Maurice Denis, Jésus avec trois petites filles, organisant des jeux. Mais il est de nouveau le
père. On est au XXe siècle.
Là, on est au XXe siècle, début, et Jésus paraît un peu le maître de cérémonie, ou en tout cas, il organise comme une sorte de moniteur les après-midi à Nazareth avec des petites filles, trois.
Alors, Maurice Denis, il est mal vu de certains de ses contemporains de la première moitié du XXe siècle parce qu'il aurait tourné pieux. On peut, allez, une provocation pour finir, évoquer un peintre qui a suivi de peu dans le temps, Maurice Denis. Max Ernst. Alors là, ce tableau est étonnant.
Alors, c'est un tableau tout à fait étonnant.
Essayez de nous le décrire à
eh
la
bien,
radio.
Marie, tient sur les genoux le petit Jésus complètement dénudé et lui flanque une fessée monumentale, si violente que le nimbe de Jésus se casse la figure et se retrouve sur le sol, ce qui est quand même assez original parce que ça fait du nimbe, c'est une sorte d'objet physique. Et tandis que trois des compagnons de Max Ernst, des surréalistes, regarde par une sorte de lucarne ce qui est en train de se passer.
Ce sont les trois mages, au fond.
Si on veut, mais ils ne font aucun cadeau à Jésus.
Oui. C'était donc notre émission préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negulesco, consacrée à votre livre « Jésus a-t-il eu une vraie enfance au cerf ?» On attend aussi de vous chez Bayard un livre sur religions et caricatures. L'émission était... réalisé par Jacques Sigal, mais avec aux manettes Pauline Laverdure.